Année de peine, une femme dans la tranchée. Vers la reine. Pour la Sainte Élisabeth, j'irai porter des fleurs à la reine. Ayant décidé cela à 2 heures, je pris le train à 5h52 et j'arrivai le lendemain matin à Calais. De là, je pensais qu'il me serait aisé de joindre la reine. « Ah ça, vous n'y pensez pas !» s'exclama la première autorité civile à laquelle j'expose mon projet. « On ne vous laissera même pas pénétrer à Dunkerque. Dunkerque est une place forte, un camp retranché. Les femmes ne doutent de rien, vraiment. Du reste, ici, vous ne pourrez pas séjourner plus de 24 heures. Les ordres sont formels. » En effet, les ordres sont formels, encore plus formels que ça, je l'ai su depuis. Néanmoins, grâce à la Providence, qui m'apparut sous une forme que je ne puis révéler, j'obtins mon autorisation de départ, dûment revêtue de la signature du général-gouverneur de la place, et, 10 minutes plus tard, je sautai dans le train en partance pour Dunkerque. Que j'avais donc hâte qu'il s'ébranlât ce train. Il me semblait à tout instant, malgré mon permis en règle, qu'on allait m'enjoindre de descendre. Aïe, voici justement un personnage solennel, vêtu d'un long manteau noir, coiffé d'un haut képi à plusieurs galons d'or. Sûrement il vient m'expulser. Mais le train démarre. Le personnage imposant s'installe commodément dans son coin. J'ose alors le regarder et je respire. C'est un lieutenant-colonel belge. Nous roulons si lentement que c'est à se demander si l'on arrivera. À droite et à gauche, les plaines aux moulins endormis sont peuplées de soldats belges, français, anglais. Des chevaux broutent paisiblement les feuilles fanées, vestiges d'une récolte de betteraves. On entend chanter et rire les hommes proches de la route. Gaiement, ils font aux voyageurs de petits signes amicaux. On les croirait en joyeuses manœuvres. Le colonel me dit « Vous avez déjà voyagé par ici, madame ?» Et sur ma réponse négative, il m'explique « Vous voyez, là-bas où l'on ne voit rien, ces lignes de terre fraîchement remuées, ce sont des tranchées. Mais de ce côté, on ne se battra pas. Vite, vite, regardez !» Nous arrivons à l'Aune-Plage. Le quai de la petite station est grouillant de soldats retour du front. Leurs vêtements sont terreux. Leur barbe n'est pas faite d'hier, bien sûr, ni leurs cheveux frais coupés. Beaucoup semblent exténués. Les plus las, pour se soutenir, s'accotent aux plus robustes. Mais quelle fierté, quelle ardeur brille dans leurs yeux à tous. Il est certain que ces hommes, pareillement habillés de boue, pareillement chaussés de lourds godillots racornis, pareillement avide du pauvre bol de café fumant que distribue une brave femme du peuple et sa fillette, appartiennent à des classes différentes, mais on ne les distingue plus tant ils se ressemblent, fraternisant dans la même crasse glorieuse et communiant dans la même certitude de victoire. Au même instant, un train stoppe au long d'une autre. C'est un convoi de prisonniers allemands. Ceux-là n'ont dans le regard ni fierté, ni vaillance. La tête appuyée aux parois des wagons, il ne semble que goûter béatement la joie de se sentir sauvé. À la gare de Dunkerque, l'officier de service tourne et retourne tant de fois mon permis, on dirait vraiment qu'il cherche à déchiffrer un rébus, et me toise d'un regard si soupçonneux qu'à un moment je tremble qu'il ne m'oblige à rebrousser chemin. Mais il finit par me rendre le précieux papier en disant, comme pour lui seul, « Quel sale temps !» S'il est difficile de pénétrer à Dunkerque, il est peut-être encore plus difficile d'y trouver un gîte. En vain, j'ai posé la même question à tous les hôteliers aux environs de la gare. « Vous avez une chambre ?» Et tous, invariablement, m'ont répondu « Plus une seule. » J'ai le sentiment d'être suspecte. C'est qu'en effet, dans cette ville si animée, où les boutiques semblent des cornes d'abondance, que de gâteaux, que de charcuteries, on ne rencontre presque pas de femmes, rien que des soldats de toutes armes et des autos grises filant à toute allure. mais pas un fiacre, pas une voiture d'hôtel à l'horizon. Il pleut à verse, j'erre par les rues, traînant mon sac de voyage, mon manteau, mon parapluie fermé. Enfin, j'arrive sur une belle place où resplendit la façade fleurie d'un hôtel. En tremblant, je repose ma question. « Vous avez une chambre ?»« Plus une seule. » Mais, se ravisant, peut-être m'a-t-elle prise en pitié, la caissière me rappelle. « Il en reste une belle au premier. Ça va ?»« Si ça va, la brave femme, je l'embrasserai. » L'air un peu méfiant, elle poursuit. « Inscrivez votre nom, votre nationalité, votre adresse. Vous avez un permis de séjour ? Vous ne pouvez rester que 24 heures, vous le savez ?» 24 heures. Je n'aurai que 24 heures pour faire tout ce que je veux. Mais je suis si lasse que je n'ai plus la force de réfléchir davantage. Je gagne ma chambre. Demain, on avisera. Au milieu de la nuit, je suis réveillée par un bruit de tonnerre qui ébranle tout l'hôtel. Cependant, personne ne bouge. Au matin, je demande à la femme de chambre ce qui s'est passé. « Oh, rien du tout, dit-elle, sans le moindre émoi. C'est le canon. » Et sereine, elle continue. « Cette nuit, ça a été bien calme. Des fois, ça nous empêche de dormir. Fatiguée comme on l'est, c'est assommant. » Et les taubes ? Depuis quelques jours, ils se tiennent tranquilles. Mais bien vite, elle reprend, comme s'il s'agissait d'une curiosité que l'on est fier de montrer aux étrangers. « Dommage que vous ne soyez pas venu il y a 15 jours. Il y en avait beaucoup. Peut-être bien qu'il en reviendra aujourd'hui. » Décidément, les autorités civiles ne me réussissent pas. Depuis 2 heures, je vais de la sous-préfecture à la mairie et de la mairie à la sous-préfecture pour entendre toujours la même réponse, faite d'ailleurs avec une charmante bonne grâce. « Désolée, madame, mais il est impossible d'aller en Belgique. On ne délivre aucun permis. Ordre formel. » « Ah non, tout de même, je n'ai pas passé une nuit et une demi-journée dans le train, risqué de coucher dehors par-dessus le marché, pour m'en retourner bredouille. » Ce que je n'ai pu obtenir des autorités civiles, les autorités militaires me l'ont accordé. Oh, pas d'emblée, non. Très aimablement, on m'offrit d'abord de faire porter tout de suite, pour qu'elles ne se fanent pas, mes fleurs à la reine. Et comme je tenais bon pour les porter moi-même, je n'affirmerai pas qu'il n'y eut quelque malicieuse arrière-pensée dans l'esprit du beau lieutenant, finissant par acquiescer. « Eh bien, soit, madame, si vous trouvez une auto pour vous conduire à la panne, je vous ferai donner un permis. »« Si ce n'est que cela, » fis-je avec la belle assurance des ignorants. « Trouver une auto disponible à Dunkerque ? Autant demander la lune. Les gens me contemplent comme si j'avais perdu l'esprit. » Toutes les autos sont réquisitionnées depuis belle lurette, il n'en reste plus une seule dans la ville. Un cocher auquel je m'adresse en désespoir de cause, sans naturellement lui confier le but de mon voyage, riposte « Non mais pensez-vous que je vais aller si loin et éreinter mon cheval, ou bien attraper quelque mauvais pruneau ? Ça pleut des fois sur cette route-là, je suis père de famille, moi. » Une seule ressource me reste, c'est de louer une bicyclette, d'attacher ma gerbe en travers sur mon dos et de partir ainsi. Toute fière, je reviens faire part de ma trouvaille au lieutenant X. Tant de candeur l'a sans doute désarmé, car c'est à lui que je dois d'avoir enfin déniché le clou miraculeux dans lequel j'ai entrepris mon voyage. Nous patinons avec un si curieux bruit de ferraille que les passants, pourtant habitués à en voir de toutes sortes, se retournent amusés. Mon chauffeur a bien une 15aine d'années. Dans un tournant dangereux, il me confie ingénument. « Ah, dame, je ne suis pas encore très calée. C'est la première fois que je conduis. » En brusque zigzag, nous suivons la route sinueuse, labourée comme un champ, qui longe le canal couleur d'encre. De lourds camions la sillonnent, transportant des mitrailleuses, des canons. On ne cesse guère de l'entendre, le canon. Et ça fait tout de même quelque chose quand on arrive de Passy. En longue file se succèdent les autos de ravitaillement. Tous les 100 mètres, on nous arrête pour le contrôle des permis, et chaque fois les soldats me dévisagent en s'interrogeant du regard. L'un d'eux murmure « Il est défendu de laisser passer des femmes dans les autos. » Et il appelle son sergent. Tous deux délibèrent. « Qu'est-ce que tu veux ?» fait le sergent. « Laisse-la passer, puisque c'est écrit. » Nous croisons des pelotons de soldats qui, la pelle sur l'épaule, viennent de creuser des tranchées. D'autres construisent des abris. Une planche vermoulue, un bout de tôle, un peu de paille suffisent pour édifier un château. Mais qu'elles sont nettes, régulières, géométriques, les tranchées. C'est presque de l'architecture. D'aucunes ont de minuscules lucarnes, pareilles à celles des petites maisons jaunes à volets verts qui bordent la route. Contre le remblai, gît une carcasse d'auto criblée de balles. Se balançant sur leurs selles, au pas rythmé de leurs chevaux alezans, voici de superbes soldats indiens, que guide un turco magnifique. Puis des voitures d'ambulance, encore des canons et des mitrailleuses, suivies d'un détachement de Sénégalais, des soldats anglais, belges, d'autres indiens glorieusement enturbanés. Et est-ce que je deviendrai subitement folle? Mais non, c'est bien lui. Je retrouve mon passibourse. Oui, notre pacifique autobus, bourré jusqu'au plafond de brunes miches rondes. Il pétule, ronfle, s'élance, semble vouloir tout écraser. Il n'y en a que pour lui. Devant nous, un homme marche, courbé. À chaque pas, ses pieds enfoncent dans la vase jusqu'à mi-jambe. Il est tête nue. Le vent qui fait rage a dû emporter son chapeau. Ses bras ballants ont par instants des saccades folles. Je lui offre de monter dans l'auto. À peine assis, il me raconte, les lèvres tremblantes, qu'il s'en va à Furnes. Depuis 2 heures, il est en route, n'ayant pas trouvé de voiture pour l'amener. « Hier, je suis déjà venu, me dit-il. Aujourd'hui, on ne pourra rien me dire de plus. Mais c'est plus fort que moi. Il faut que je revienne. Mon fils a disparu à la bataille de l'Isère. Ce n'est pas possible qu'il me l'ait tué, n'est-ce pas, madame? Je ne peux pas le croire, ce serait trop affreux. Il faut que je le retrouve, vous comprenez, et que j'écrive à sa mère qu'il est vivant. Nous sommes Belges et à présent réfugiés à Folkestone. Ma pauvre femme est folle de chagrin. Nous avons vu des choses si horribles. Ah, les misérables! J'aurai toujours ce spectacle-là devant les yeux, quand ils ont aligné ces femmes avec leurs gosses dans les bras contre le mur en face de chez nous, et qu'ils les ont fusillées, et qu'après, ils s'acharnaient dessus à coups de baïonnette. Ce sont des sauvages, mais tout de même... Ils n'ont pas assassiné notre petit, n'est-ce pas? Peut-être va-t-on me dire aujourd'hui qu'on l'a retrouvé. Le colonel que j'ai vu à la panne m'a promis de faire des recherches. Il ne voulait pas que je revienne avant 8 jours. Seulement, il faut que je rôde par là. Je ne peux pas quitter cette route. Il me semble que je vais le rencontrer. Le cœur serré, je balbutie de vagues paroles de réconfort. Un prêtre arrive à travers champs, en relevant sa soutane à 2 mains. Lui aussi prend place dans l'autopoussive, mais pour redescendre bientôt et s'en retourner du côté opposé par les plaines les moins inondées. Il s'en va bénir des tombes marquées d'une croix de bâton surmontée d'un képi. « La frontière !» annonce le chauffeur. Cette fois, ce sont des douaniers qui examinent nos papiers. « Des Belges ! Je suis en Belgique ! Mon cœur bat plus fort !» Je voudrais faire quelque chose, je ne sais quoi, pour exprimer les sentiments confus qui m'exaltent. Machinalement, je cueille une poignée de chrysanthèmes à ma gerbe et je les distribue à ces hommes qui m'accueillent avec un sourire cordial en apprenant que j'apporte des fleurs de France à leur souveraine. Le bruit du canon résonne plus clair à mesure que nous avançons, mais j'y suis déjà faite. Nous arrivons à Furnes. Sur la grande place de l'adorable petite ville, on se croirait en quelque étrange pays exotique un jour de marché. Des Écossais, des Indiens, des Sénégalais, de grands diables à la peau d'orange ou de bronze devisent par groupe la bride de leurs chevaux passée nonchalamment au bras. Une marchande de pommes trop vertes leur tend sa manne dans laquelle ils puisent. Un colporteur béquillard brandit des images. Une vendeuse de berlingots tricolores a l'air de faire fortune. Une petite fille, en berçant sa poupée, regarde curieusement ce spectacle insolite. Derrière une fenêtre, parée pour le passant de 2 vases naïfs et d'une statuette en plâtre, une vieille femme tricote. Comme la cité charmante est paisible et douce sous la canonnade, croirait-on jamais qu'à 3 kilomètres de là, gronde et rugit la bataille ? Après avoir traversé Furnes, nous prenons un chemin détourné et nous arrivons enfin à la résidence de la reine. Je cherche un château. C'est une modeste villa en briques rouges qu'on me montre. « Mais oui, elle est simple, comme celle qui l'habite, la maison de notre reine, » me dit une jeune femme accompagnée de deux bambins bouclés. « Ah, quand vous la verrez, le dimanche à l'église, dans le banc à côté de nous, comme sa voix et son sourire nous font du bien. » Je sais qu'elle est très bonne, dans les hôpitaux partout on me l'a dit. Et encore, on ne sait pas tout, elle s'en va jusque sur le champ de bataille soigner les blessés. Elle les panse, elle les baigne. L'autre jour encore, je l'ai vu laver les pieds à un soldat. Et vous n'avez pas peur ici ? Non, il nous semble qu'elle est notre ange gardien. Là où elle est, nous n'avons pas peur. J'avais préparé une phrase pour solliciter une audience, une phrase académique et protocolaire que je me décidais à réciter de mon mieux. Mais le garde du roi, me voyant patauger dans le sable bourbeux, car l'auto n'a pas pu m'amener jusqu'à la porte, s'est avancé à ma rencontre en tendant les bras pour m'aider à porter ma gerbe trop lourde. Et, devant cette maison si modeste, si dénuée de toute prétention, je demande tout naturellement « La reine est-elle là ?» comme j'aurais dit à la servante familiale qui m'ouvre la porte d'une maison amie. « Madame est chez elle ?» Du même ton, l'officier me répond comme en s'excusant. « C'est désolant, Sa Majesté vient de partir pour X. Vous avez dû la croiser en route. Si vous voulez attendre un moment la comtesse de Caraman-Chimay, sa dame d'honneur, elle sait peut-être où vous pourriez rejoindre la reine, à moins que vous ne préfériez l'attendre ici. » Mais non, d'une autre source, j'apprends bientôt que la reine ne doit pas revenir le soir, ni le lendemain. Du reste, le chauffeur, qui déjà hésitait à me conduire jusqu'ici, se précipite vers moi, haletant. « Écoutez, madame, ne dirait-on pas qu'on bombarde Furnes ? Nous ne pouvons pas rester plus longtemps. » Et péremptoire, il ajoute « Faites ce que vous voudrez, moi je rentre à Dunkerque. » Je confie mes fleurs au garde du roi, qui me dit avec émotion « Soyez tranquille, madame, nous en aurons soin de ces fleurs, puisqu'elles sont pour la reine. » Madame Annie de Peine, grand quartier général de l'armée belge, 19 novembre 1914. Madame, la reine me charge de vous remercier de la belle gerbe de fleurs que vous êtes venue lui offrir au nom des femmes françaises. Sa Majesté a été sensible à votre aimable pensée et elle désire que je vous transmette, ainsi qu'à vos charmantes compatriotes, l'expression de sa vive gratitude. Croyez, je vous prie, madame, à ma considération distinguée. Comtesse de Caraman-Chimay, Dame d'honneur.